Avant de prendre vos questions, j'ai vu dans la salle des gens dont j'aimerais bien entendre. Arnaud, je crois que tu travailles pour... vous avez le même patron, quelque part, avec Jean-Pierre Thébault. Tu t'occupes de la communication des événements pour l'Élysée. Je n'ai pas de micro, par contre. Mais... Non, bah, je vais parler pour...
Alors, donc, je m'occupe précisément du pôle image de la présidence de la République, voilà, et de l'image du président.
Dont les événements.
Dont les événements, comme le G7, de nombreux sommets, les conférences de presse, le grand débat national, les événements exceptionnels, et ainsi de suite.
Alors, ma question, tu l'imagines, c'est-à-dire que là, le G7, a priori, j'ai entendu que c'était un souhait de la présidence de s'engager vers cette exemplarité et de pousser le marché. Est-ce que c'est un souhait ponctuel ou alors est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'es demandé sur l'ensemble des événements dont tu viens de parler ?
Alors, il faut déjà distinguer les événements effectivement très ponctuels sur lesquels on ne va pas avoir pouvoir mettre...
Tu peux peut-être te lever si tu veux.
Ah, comme vous voulez. Oui,
les gens okay. Te voient.
Pardon, bonjour. Effectivement, c'est assez mal poli. Donc effectivement, il faut distinguer déjà les types d'événements sur lesquels on travaille, des événements sur lesquels on va pouvoir mettre en place cette stratégie et cette volonté, même si elle est indéniable et à la base de tout. Maintenant, il y a aujourd'hui une réelle réflexion de transversalité sur l'intégralité, non pas des événements que de la présidence, mais aussi des différents ministères, très clairement. Donc on cherche des solutions pour coordonner tous nos amis et mettre en place une réelle logique de responsabilité sociétale, voilà, et de développement durable.
Ok. Ben, merci pour ce témoignage. Sauf si tu as autre chose à ajouter.
Non, ça me fait plaisir de venir et de sortir un peu.
On est vraiment très utiles, hein, ouais. Bah oui, bien sûr. Il y aura peut-être des questions aussi pour toi. Gad, je te sais, tu étais là l'année dernière. Qui était là l'année dernière à l'événement ? Qui se rappelle avoir vu Gad ? C'était un de nos deux trublions qui, pendant toute la journée, a challengé les intervenants sur ce qu'il racontait. Est-ce que tu veux bien réendosser ton dossard pour quelques minutes de trublion ?
Ben, avec plaisir.
Gad, redis-nous en deux mots qui tu es, tout le monde te connaît. Mais...
Gad Veil, je dirige la fonderie et j'ai commis quelques événements dans la rue depuis presque 30 ans. En fait, j'ai une question, sans doute pour l'ambassadeur, pour Jean-Pierre, mais peut-être aussi pour nos autres amis. Cette question, peut-être que nous sommes tous en train de nous la poser tous les jours. L'éco-responsabilité, moi qui travaille beaucoup dans les rues à Paris, j'ai signé une charte d'éco-responsabilité avec la maire de Paris, comme toutes les villes. Les responsabilités que nous donnent un certain nombre de donneurs d'ordre sont formidables parce qu'elles pèsent sur nos épaules. Alors la question est toute simple. Est-ce que dans les budgets des appels d'offres que l'État va donner à tous les opérateurs que nous sommes des confrères, nous sommes des concurrents, nous nous battons tous les jours, nous nous bagarrons pour gagner des appels d'offres. À quel moment, dans ces appels d'offres, il y a un coût pris en charge par le commanditaire qui dit « mettez le paquet sur l'éco-responsabilité ». Pas « démerdez-vous pour le faire discrètement, doucement et trouver votre sauce ». C'est « moi, commanditaire public, je donne le modèle qui un jour servira à tous les commanditaires privés. Je veux, moi, État ou ministre ou maire, mais aussi demain entreprise, qu'on me dise que mon RSE est impeccable, que je suis irréprochable, mais tout ça, ça a évidemment un coût. Et quand moi, j'entends les donneurs d'ordre public ou privé, j'entends beaucoup, tu peux pas te débrouiller pour faire en sorte que les matériaux, t'en fais quelque chose, tu les donnes à la recyclerie, tu les vires, mais discrètement, faut pas trop qu'un journaliste découvre que peut-être c'est pas si propre que ça. Ça a un coût. L'éco-responsabilité, à long terme, c'est magnifique, parce que c'est responsable, mais à court terme, ça a un coût. Alors, est-ce que les commanditaires publics que vous êtes intègrent dans les cahiers des charges des opérateurs privés que nous sommes ce coût ?
La question est posée.
Alors moi, je m'en pars avec plaisir du micro parce que j'ai cette expérience maintenant de plonger mon nez dans les marchés publics parce que c'est ce dont on parle. Et alors, nous avons à la fois un point de vue d'utilisateur, mais c'est formidable parce que nous avons le député et donc nous avons l'homme qui peut résoudre le problème. Le problème, c'est que les marchés publics ne comprennent pas de clauses substantielles qui permettent de prendre en compte la dimension éco-responsable dans la conclusion du marché. Et donc, vous, soit vous le faites parce que vous y croyez, mais ça ne sera jamais valorisé en tant que tel dans la passation du marché, soyons très honnêtes. On nous encourage dans ces marchés à faire en sorte, à prendre en compte cette dimension, notamment à vérifier que lorsque vous avez recours à des sous-traitants, ils respectent bien les normes sociales, environnementales, etc. Mais de là à vous récompenser d'être exemplaire, malheureusement, le pas n'est pas encore franchi, c'est clair. Donc au fond, c'est pareil d'ailleurs pour les circuits courts. Là, on essaye, nous, de faire en sorte actuellement qu'on favorise les circuits courts. Il y a bien des dispositions très générales, encourageant éventuellement la possibilité d'eux. Mais ça ne doit jamais être un critère frontalement opposé dans une offre pour choisir entre deux offres. Voilà. Donc, au fond, si vous avez parfaitement raison, je prends sous mon chapeau le fait de vous le dire, je suis peut-être pas politiquement correct, mais ça fait partie aujourd'hui de l'hypocrisie du système. C'est-à-dire qu'au fond, on voudrait bien faire, on affiche qu'on voudrait bien faire, mais comme vous le dites, ça doit être à coût zéro. Et de ce point de vue-là, la génération d'après, en termes de passation de marché public, je pense, à titre personnel, c'est de faire en sorte que, si c'est important, ça soit inséré comme un élément décisif des critères des cahiers des charges. Voilà. Mais je passe la balle à monsieur le député.
Je savais bien qu'il ne fallait pas venir. Bon, merci en tout cas pour la question. Alors, c'est une vraie question. En plus, on a parlé tout à l'heure, vous avez évoqué, monsieur l'ambassadeur, les circuits courts. Pour moi, je fais un peu un parallèle avec ça, parce qu'il n'est pas possible, en fait, aujourd'hui, de légiférer pour trouver une solution et imposer une solution. La seule solution, pour moi, qui est viable, c'est que l'ensemble des acteurs et à tous les échelons s'emparent du problème. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'imaginons, nous légiférons en tant que députés, nous pondons une loi qui dit qu'il faut faire ça, ça et ça. Nous avons regardé par exemple l'histoire des circuits courts. Aujourd'hui, pour nos cantines par exemple, pour nos enfants, pour imposer du bio dans toutes nos écoles en circuits courts, ben, nous n'avons pas les producteurs qui font, qui produisent suffisamment pour alimenter l'ensemble des écoles, je parle de la région parisienne. Hein. Et ce qui fait que si nous appliquons la loi à la lettre, ça veut dire que nos enfants ne mangent pas. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive en fait à stimuler les producteurs à ce qu'ils puissent produire en fait pas trop loin. Et nous avons par exemple déjà fait venir dans Paris 20 agriculteurs. Donc, c'est un test que nous faisons. L'idée étant de pouvoir recréer un peu d'agriculture à l'intérieur de Paris et surtout pas trop loin de Paris. Donc, ça, c'est un exemple qui montre qu'il y a le côté, je dirais, théorique sur papier qui peut être très bien. Et dans la pratique, ça ne marche pas. Pour le coût, justement, pour être parfaitement RSE, c'est un peu la même problématique. Il faut qu'on arrive en fait à stimuler chaque échelon pour que chaque créateur d'événements ou porteur d'événements intègre ça dans son esprit et surtout ensuite le traduise en cahier des charges. Et je pense en effet, c'est que si c'est écrit non seulement sur le cahier des charges et que ce soit un document des références pour tout le monde, qu'on arrive vraiment à avancer. Il faudra pour ça qu'on avance tous ensemble. Et en tout cas, je suis à votre disposition si demain, nous pouvons corriger certains trous dans la raquette, dans la législation actuelle, pour pouvoir avancer sur le sujet.
Monsieur le député, si vous permettez, je propose un amendement qui pourrait s'appeler l'amendement Wai. L'amendement Wai, alors c'est vraiment une phrase extrêmement simple, que tous les donneurs d'ordre public choisissent non pas le moins-disant financier, mais le mieux-disant environnemental. Cette simple phrase change toute la donne pour toute la filière.
Bravo. Merci pour votre proposition, mais je crains un petit peu que ce soit une fausse bonne idée. Dans le sens où, je vais dire pourquoi. Est-ce qu'on part du principe que les donneurs d'ordre n'ont pas de problème de budget et qu'ils peuvent se permettre le luxe justement de choisir le mieux disant environnemental et non pas en essayant de faire au mieux par rapport au budget dont ils disposent. Vous voyez, c'est une bonne idée, on va essayer de voir comment on peut avancer là-dessus. En tout cas, c'est le sens, mais il faut qu'on fasse attention à ce que ça puisse être appliqué sur le terrain.
Il y a d'autres réactions peut-être, oui, par rapport aux appels d'offres publics, parce que, alors Arnaud, tu peux peut-être réagir là-dessus, mais moi ça m'étonne ce que vous dites. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans les appels d'offres publics, alors c'est peut-être pas discriminant à 100%, mais il y a quand même une part, un pourcentage de la note, pas forcément du budget en plus, mais en tout cas de la note qui va à des critères développement durable. Arnaud ?
En fait, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, l'Élysée, ma première administration. Je suis un produit du pur privé et j'ai donc découvert l'administration publique en commençant par la plus grande administration de France. C'est un honneur, mais c'est très surprenant. Boone, tu as raison, il faut déjà rappeler une chose, c'est qu'on a des budgets et qu'on doit respecter ces budgets. Et je crois que vous avez bien compris que sous ce gouvernement et avec ce président, on s'attelle à respecter réellement les budgets et qu'on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Concernant l'Élysée, puisqu'à partir de là, je ne vais parler que pour ma paroisse, j'ai eu des surprises. J'ai vu des appels d'offres dans lesquels le critère environnemental n'était même pas spécifié, réellement. Donc j'ai demandé, pourtant c'est pas du tout mon but, hein, enfin je ne suis pas là pour ça en tous les cas, à ce qu'il soit mis systématiquement. La réaction a été de dire, mais tu comprends, c'est forcément discriminant pour les PME qui n'auront pas de rapport RSE. Alors là tu commences à expliquer, mais non, au contraire, en même temps tout le monde est... et dont, éventuellement, même les PME à se pencher sur le cas du RSE, du développement durable, et ainsi de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, alors j'ai quelques élèves qui l'ont vécu en live, en fait, je me suis occupé de toute la campagne du candidat aussi. Cette campagne a été faite sous un principe, alors, ne me regardez pas méchamment après, hein, sous un principe très simple, la désintermédiation. On parlait de circuit court tout à l'heure, la désintermédiation. J'ai fait une rencontre exceptionnelle, je me suis mis au service d'une personne, d'une équipe, d'un mouvement, parce qu'on avait un projet commun. J'ai des intermédiaires. C'est-à-dire que j'ai profité de mes connaissances et de mon réseau qui ont travaillé directement pour le mouvement sans que je sois un intermédiaire qui en profite pour très bien et très largement bien gagner ma vie. Ça nous a permis de mener une campagne plutôt efficace et économiquement parfaite. Vous pouvez regarder les chiffres, il n'y a aucun problème. Les agences qui répondent aux appels d'offres que nous pouvons lancer. Alors encore une fois, l'Élysée lance des appels d'offres concernant des marchés très précis. C'est jamais sur un événement, puisqu'en fait un événement, là on a monsieur le secrétaire général pour le G7 en fait, mais qui dépend au final sur le mécanisme du ministère des Affaires européennes et étrangères. Ouais, quand on va faire une cérémonie plutôt militaire, ça va plutôt être un marché lancé par le ministère des Armées, et ainsi de suite. Donc nous, on pilote, on regarde, on choisit. Mais les marchés sont spécifiques à chaque ministère. Sans trahir, encore une fois, aucun secret, de très grandes entreprises ont très bien gagné leur vie et en ont profité sur le dos de petites entreprises ou de plus petites entreprises. Ça ne gênait personne. Quand j'entends dire qu'il faut que l'État remette encore un budget supplémentaire pour aider à ce que ce soit éco-responsable ou quoi que ce soit, je pense qu'aujourd'hui, chaque particulier cherche à être éco-responsable, et je crois que c'est de plus en plus le cas pour les citoyens, hein, il y a des chiffres qui viennent de sortir. Pourtant, ça ne leur coûte pas forcément plus cher. Il faut travailler sur ce circuit court, et on s'y attelle effectivement notamment sur la région de Biarritz pour le G7, mais il faut juste qu'à un moment ou un autre, on retrouve aussi de vraies valeurs, qu'on soit tous d'accord, on peut tous travailler, on peut tous gagner notre vie, enfin pardon, là, je parle comme si j'étais encore de l'autre côté. Vous pouvez tous gagner votre vie et réellement vous impliquer sur ces marchés, mais à un moment ou à un autre, on ne peut plus aussi supporter un nombre infini d'intermédiaires. Alors effectivement, moi, je suis passé de l'autre côté, donc quand je vois répondre une entreprise, je sais très bien si elle peut répondre directement ou si elle va sous-traiter, et ainsi de suite. C'est aussi, en partie, une petite partie de mon travail. Donc il faut juste que nous prenions tous nos responsabilités, que nos marchés soient clairs, qu'on les envoie et qu'on les transmette aux entreprises qui sont supposées y répondre réellement, dont c'est réellement le cœur de métier, et ensuite que nous soyons là pour accompagner et prendre les bonnes décisions à chaque moment. Mais on ne peut pas dire, alors si l'événement doit être éco-responsable, il va forcément coûter tant de plus et que c'est à nous de encore payer plus cher. Je pense que nous devons, nous, mieux maîtriser nos budgets en étant très carré dès le début, en fait.
Je pense qu'on a... Donc, c'est une piste pour l'exemplarité, c'est ça. Au-delà des propositions, mais qui ont été notées par les interlocuteurs, GAD, avec en plus un très joli nom pour ton amendement, je vois que vous avez le micro. Monsieur Thébault, vous voulez réagir?
Oui, il y a aussi peut-être un défaut dans le raisonnement GAD, que j'apprécie, mais que je critique aussi. Pourquoi le plus ou le mieux disant environnemental et social serait toujours plus coûteux? Parce que si on regarde un coût complet, on peut peut-être démontrer qu'il est moins coûteux. Si l'environnement, si le respect des normes sociales et environnementales aboutit toujours, effectivement, comme le disait fort justement monsieur le député, comme Arnaud, c'est dire c'est toujours une justification pour que ça coûte plus cher, eh bien, c'est pas forcément bien pris. Et il y a des contraintes, il y a un monde réel. Par contre, si on établit un bilan complet, et ça c'est peut-être aussi le rôle de forum de spécialistes comme vous, de dire voilà, effectivement, d'un côté, il y a peut-être une dépense supplémentaire, mais voilà maintenant les avantages en termes, je dirais, qui peuvent être même évalués monétairement, d'une approche éco-responsable, d'une approche socialement responsable, ben, ça aboutit à faire des bilans qui peuvent être pris en compte. Mais sans objectivation de la chose, on ne pourra pas le faire. C'est le débat qu'on a au niveau international, d'ailleurs, pour convaincre un certain nombre d'États réticents. C'est révéler, en fait, les externalités négatives ou positives de certaines décisions. Et c'est peut-être un cran de plus, effectivement, dans le mécanisme de décision, que de révéler que le fait d'investir un peu plus pour être environnementalement correct induit néanmoins telles et telles économies qu'on n'avait peut-être pas initialement envisagées. Ça demande d'être un petit peu plus approfondi dans l'approche des choses. Et je crois qu'une combinaison entre une amélioration à la marge quand même dans certains textes qui fait que le sujet environnemental et social n'est pas simplement une option, mais une obligation dans l'évaluation, je dirais, des offres. Et par ailleurs, l'amélioration de la présentation par la profession du fait des avantages externes induits serait déjà un progrès. Peut-être pas le progrès, mais déjà un progrès.
Alors, je vous propose, voilà, on va prendre, il nous reste environ 10 minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est une question ? Ouais, super. Question versus ce témoignage. Donc, je vous propose qu'on prenne ceux qui veulent poser des questions. Lève la main, on va prendre 2-3 questions à la volée. Et puis après, donc, on a une autre personne ici, pour ceux qui ont les micros. Voilà, et puis peut-être voilà, une troisième question là-bas. Et puis après, on laissera nos 4 intervenants répondre avant de clôturer.
Bonjour messieurs, Renaud Attal de Co-Recyclage. Alors j'aimerais vous poser une question et en même temps vous donner une interpellation. Aujourd'hui, il faut que la loi puisse évoluer. Aujourd'hui, à toutes les strates de l'État et des services publics, on gaspille des ressources parce que la loi ne permet pas de pouvoir partager des ressources avec d'autres institutions qui ne sont pas sur les mêmes niveaux et encore moins avec les associations locales, les jeunes start-up sociales. Et aujourd'hui, on le voit au quotidien sur des événements publics, type la COP21. Nous, on a galéré pour faire du réemploi, mais on a réussi à faire 280 tonnes de réemploi sur le démontage, mais également sur des déménagements. Le ministère de la Justice, on les a accompagnés pour déménager. On a pu faire un peu de réemploi interne. Malheureusement, on n'a pas pu faire le réemploi externe parce que les services des achats de l'État empêchent ça. Et malgré des accords avec les éco-organismes, aujourd'hui, c'est réemploi interne en petite sphère ou recyclage matière,
et
ce
donc,
qui est bien dommage.
Manon, ta question.
Et du coup, c'est comment est-ce que vous pouvez faire évoluer ça avec la législation ? Je sais que c'est peut-être pas vous directement, mais c'est des sacrées économies pour l'État. Et justement, c'est peut-être par là qu'on devrait commencer de se poser comment on peut mieux faire, soit pour que les autres derrière suivent le mouvement. Et du coup, ça passe peut-être par l'État et les différents services un peu partout, en local ou en national.
Merci. Il y avait une deuxième question ici.
Oui, alors moi, ça, je vais rebondir là-dessus. Dans le secteur du bâtiment, on a mis en place le BIM. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est plutôt que d'analyser les bâtiments sur leurs caractéristiques purement techniques, d'analyser le cycle de vie. Et du coup, de ce qu'on disait tout à l'heure, ça coûte, à mon avis, pas plus cher de faire de l'éco-responsable, si tant est qu'on regarde la solution dans son ensemble. Et du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer, au niveau de la législation, mettre en place l'équivalent sur le domaine de l'événementiel, et plutôt que de traiter les projets en disant « il est éco, il n'est pas éco », de dire bah, avoir une cartographie complète de l'impact environnemental tel que le fait le secteur du bâtiment avec la mise en place du BIM.
Donc une suggestion, c'est ça finalement, pour le plan d'action à rajouter dans les objectifs d'éco-responsabilité du G7 notamment. Ouais. Et il y avait là-bas une dernière question.
Oui, à Nantes, on a mis en place une critérisation d'achat RSE dans la commande publique. Et on a eu, lors d'un marché sur des supports de communication, la très désagréable surprise de voir le tribunal administratif casser cet achat responsable sur la base de critères RSE. Et là, clairement, en fait, on a un problème au niveau de la loi. Donc, le tribunal ne fait qu'appliquer la loi, qui fait qu'une fois de plus, lorsqu'on a beau se creuser la tête pour essayer de trouver des manières innovantes pour faire de l'achat responsable, mais à un moment, la loi nous empêche de le faire. Et juste un deuxième point, c'est une solution, enfin, c'est juste un avis, mais une solution pour faire du mieux-disant une priorité, je pense que c'est de faire appel sans doute à un concept tout simple qui est la sobriété. Et trop souvent, et notamment dans l'événementiel, on a envie de faire émerger de l'émotion à travers de la puissance, que ce soit énergétique, que ce soit des décors, que ce soit du gigantisme, que ce soit plein de belles choses. Sauf que ce que nous appelle quand même le facteur 4, c'est un mot tout simple, ça s'appelle la sobriété. Et je voudrais savoir, et notamment puisque a priori je crois que le facteur 4 va sortir de nos enjeux nationaux. Je suis curieux de savoir en fait qu'est-ce que vous allez faire là-dessus.
Alors moi, ce que j'entends dans ces questions témoignages, c'est finalement une certaine cohérence avec ce que vous avez tous dit ici. C'est-à-dire qu'on a un blocage finalement au niveau des marchés publics pour créer, peut-être pour aller dans le sens de ta proposition, France terre d'événements à impact. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que cette ambition, on peut l'atteindre avec les outils qu'on a en France, ou est-ce qu'on a des choses à, ou qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce que vous pouvez nous aider à changer?
Il y a déjà aussi une chose à faire, c'est peut-être ne pas simplement se regarder entre soi, mais essayer de regarder ce qui se fait ailleurs. Là où je rejoindrai Monsieur le député, c'est que fondamentalement, la directive marché public, c'est un texte de portée européenne. Donc il ne sera modifié très largement que s'il fait l'objet d'une approche au niveau européen. Il y a peut-être de très bonnes pratiques qui se font déjà dans d'autres pays de l'Union européenne dont on pourrait déjà s'inspirer. Et puis il y a peut-être aussi la possibilité ensemble, entre plusieurs pays, entre quelques pays leaders, de se dire, bah, tiens, obtenons une modification au moins sur cet enjeu-là, sur cette pratique-là. Maintenant, ce que j'entends effectivement de l'expérience de Nantes, bah, c'est quelque chose qu'on a tous à un moment donné plus ou moins connu ou tutoyé. C'est un risque. Pour l'instant, c'est vrai que les critères sont des critères qualitatif mou, c'est pas des critères quantitatifs durs, parce qu'effectivement il n'y a pas cette évaluation des externalités positives d'une prise en compte intégrée, ex ante, effectivement des enjeux environnementaux et sociaux. Est-ce qu'il faut le régler par de la réglementation? Pas sûr. Est-ce qu'il faut le régler par, je dirais, déjà une réflexion propre à la profession qui propose des solutions? C'est peut-être pas mal. Est-ce qu'il faut s'inspirer de choses comme celles qui sont faites dans le bâtiment? Peut-être pas, parce que l'événementiel est à durée plus courte, donc c'est difficile d'intégrer ça sur des très longues durées, c'est sûrement très lourd. Mais c'est un vrai facteur, de toute façon, premièrement de recherche d'idées, de comparaison d'idées, et puis d'innovation. Après tout, pour être une France terre d'événements à impact positif, ben je pense que c'est une des voies à privilégier.
Merci. Santiago ? Peut-être une réaction là-dessus. Est-ce, oui. Que, est-ce que sur Change Now, est-ce que c'est une bonne plateforme pour faire avancer ces points de blocage qui nous bloqueraient vers nos ambitions communes?
Alors, en fait, y a, ça m'interpelle en effet le fait qu'il y a le côté réglementaire d'une part, qui est clairement quelque chose qu'il faut regarder de près et voir comment on peut le gérer. Et par ailleurs, nous, ce qu'on dit toujours, c'est y a toujours des difficultés à faire passer des législations s'il n'y a pas encore les bonnes alternatives. Et donc nous, notre job avec Change Now, c'est d'accélérer l'émergence de ces alternatives, d'essayer de rassembler autour d'elles du soutien. Donc là, pour l'instant, c'est du soutien, c'est un salon B2B et grand public. Mais là, ce qu'on essaye de faire en plus, c'est nous de ramener plus de soutien d'un point de vue collectivité locale et pouvoir politique, pouvoir public. Parce qu'en fait, c'est aussi eux qui vont permettre de faire cranter parfois certaines de ces solutions-là. Mais oui, nous, on va aller chercher 1000 à 1500 solutions. Et dans celles-là, on sait très bien qu'il y en a certaines qui peuvent s'intégrer dans de l'événementiel, qui peuvent être des nouveaux modes, qui peuvent répondre à certaines des problématiques qu'on a en tant qu'organisateur. Après, c'est quelque chose qui est au début de la démarche. Et il faut accompagner cette innovation.
Très bien. Boone, un mot pour conclure ?
Juste pour mieux comprendre votre question, la première personne qui a posé la question, vous pensiez en fait à du mobilier, des appareils, etc. qu'il faut recycler, c'est ça ou réutiliser justement, c'est ça ?
Tout type de ressources.
Aujourd'hui, nous, on donne une seconde vie à du mobilier, mais aussi des matériels et des matériaux. Et au quotidien, il y a des matériaux sur les événements. Et d'ailleurs, nos équipes sont en train de finir de démonter. Alors, je vous parle première vision, et c'est plus de 10 tonnes de ressources qui trouvent une seconde vie. Ils ont fini hier Wine Paris et plein d'autres événements. On travaille aussi sur les déménagements d'entreprises ou d'acteurs publics. Mais comme je disais tout à l'heure, par exemple, le ministère de la Transition écologique a déménagé l'année dernière et n'a pas fait du tout de réemploi, mais que du recyclage matière. C'est bien dommage. D'autant plus que beaucoup d'associations ont peu de moyens, vont chercher des subventions, notamment pour se meubler et s'équiper. C'est un peu dommage que plutôt que de mettre des subventions pour ce genre de choses, on ne puisse pas faire du réemploi qui va dans le public pour les associations locales.
Je croyais que la question était beaucoup plus axée sur réellement le fonctionnement des marchés, à quel que soit le niveau de l'administration française et du fonctionnement global de ces marchés qui, effectivement, nous amènent à en découvrir tous les jours. Effectivement, parce qu'en fait, il faut savoir que tout cela, au final, tiendra encore une fois sur la volonté personnelle et l'engagement personnel d'une personne dans une administration à bien vouloir travailler avec une personne dans une autre administration et de voir comment on peut faire pour que cela fonctionne. C'est aussi simple que ça. Pour reprendre le cas encore une fois de l'Élysée, jusqu'en 2007, enfin pendant la mandature de M. Sarkozy, il faut savoir que la Cour des comptes ne regardait pas les comptes de l'Élysée. Rien. Donc M. Sarkozy a décidé effectivement de mettre en place un système de contrôle, et donc le budget de l'Élysée est contrôlé par la Cour des comptes, validé, public, ainsi de suite. C'est une très bonne chose. Maintenant, on a réussi à mettre en place cette très bonne chose en ne mettant, encore une fois, comme on le fait très régulièrement en France, que des obstacles à la performance. C'est-à-dire qu'au final, on va vous dire, si tu as besoin de ça, il faut lancer un appel d'offres, et une fois que tu as cet appel d'offres, il est bloqué pour tant de temps, et malheureusement, encore une fois, les gens qui lancent ces appels d'offres ne sont pas forcément des spécialistes du marché sur lequel ils vont lancer un appel d'offres. C'est sincèrement, parce qu'on le vit au quotidien, avec Jean-Pierre, notamment sur le G7, on est en train de travailler très étroitement aujourd'hui l'Élysée avec le ministère des Affaires étrangères pour trouver des solutions pour transversaliser nos marchés et donc aller au mieux offrant ou au meilleur offrant. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si on n'avait pas l'intention de mettre le nez dedans et de chercher à être aussi performant et responsable, parce qu'au final, nous, notre but là, c'est d'être responsable à tout point de vue. Eh ben, on pourrait très bien rester dans l'ancien monde et continuer à faire, ok, c'est des marchés, on ne regarde pas, on paye, et puis fini. Et après, monsieur de la ville de Nantes, effectivement, tout commence par la sobriété, et je pense que là, pour le coup, qui que nous soyons dans l'événementiel, c'est à nous de tendre vers cette sobriété et cette simplicité. Les choses les plus simples peuvent être les plus efficaces et les plus marquantes. Donc là, pour le coup, je suis, et ça sera certainement, enfin, c'est une des valeurs que nous allons mettre en place autour du G7.
Un dernier mot, s'il te plaît, très court, parce qu'on a dépassé... Alors, très rapidement,
globalement, tout de même, donc j'entends toutes vos remarques. J'attire juste votre attention sur un point qui est très important, et ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Santiago, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'abord de légiférer lorsqu'on n'a pas d'autres solutions. C'est vraiment envoyer nos entreprises, donc envoyer vous, acteurs de l'événementiel, dans le mur, parce que si on vous impose des choses et vous ne trouvez pas les prestataires, vous êtes coincés. Deuxième point assez important qui m'est tout à fait lié à ça, c'est je fais très attention, moi, au niveau de l'Assemblée, au cas de surtransposition des directives européennes. L'Europe nous impose beaucoup de choses, déjà, et malheureusement, nous sommes, parce que nous sommes gaulois, peut-être, toujours tentés à faire mieux, à faire plus que ce que demande l'Europe. Alors, sur le principe, c'est une bonne chose, mais ça veut dire que dès que vous serez confrontés à vos collègues qui sont hollandais, allemands, belges, etc., vous serez avec plus de contraintes, plus de coûts, et donc plus cher, et vous perdrez des marchés. Donc je pense qu'il faut faire attention également à cela. C'est bien d'être un petit peu en amont du système, mais il faut faire attention à ne pas se rajouter des boulets face à nos concurrents qui, eux, font juste le minimum qu'il faut pour pouvoir passer. Donc moi, je suis très, très vigilant à l'Assemblée pour justement ne pas pondre des lois qui ne sont pas applicables ou alors qui entraînent des handicaps supplémentaires pour nos entreprises.
Merci beaucoup. On voit que tous ces sujets sont extrêmement complexes et qu'avec chaque bonne idée viennent des freins. En tout cas, je pense qu'on peut tous être plutôt rassurés d'avoir des gens comme vous quatre qui portez ces sujets dans des directions qui semblent en cohérence avec nos ambitions. Donc, un grand merci. Ce soir, d'ici à peu près une heure, seront dévoilés de l'autre côté donc le baromètre international de certification ISO 2021. On verra comment se positionne la France à ce jour et on pourra se fixer de nouvelles ambitions. Je pense qu'on peut les applaudir.